Alors que nous commençons ce culte, nous avons été bénis par les chants que Pierre, Juliette et Alexandre ont joués, aussi en pensant aux personnes qui n'avaient pas pu être à leur mariage. Parce que les chants que vous entendez, c'est ceux qu'ils avaient joués et qui avaient été joués au chant de leur mariage. J'ai bien dit qu'ils avaient joué parce que ils n'étaient pas des mariés qui sont restés assis, ils ont aussi chanté. Donc c'est en partie aussi parce que Frédéric revenait et qu'il se réjouissait de te réaccueillir en tant que responsable du groupe de louanges. Et au-delà de cela, Pierre et Juliette, il y a un mois, vous avez été mariés devant Dieu. Et aujourd'hui, on va parler du mariage. On va parler de points très importants pour chacun d'entre nous. Parce que le mariage, c'est le fondement de toute communauté. C'est un des liens les plus importants qui établissent des communautés, qui permettent de vivre ensemble. Commençons par un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole, merci pour ta vérité, tes enseignements et ta grâce. Nous voulons apprendre à vivre en communauté, à vivre ensemble, en tant que ta famille. Une famille qui se soumet à ton autorité, à ta parole, une famille qui apprend à aimer, à se corriger, à s'encourager, à se pardonner, à avancer ensemble. En ton nom nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Évangile de Matthieu, l'art de vivre en communauté. Après l'enseignement de Matthieu 18, trois exemples pratiques qu'on pourrait résumer en disant que c'est le prix pour être disciple. On a vu il y a de cela quelques semaines un enseignement sur la communauté. C'était en Matthieu 18. Et on va voir trois applications. Alors, c'est moi qui l'appareil, voilà. On va d'abord réviser ensemble le chapitre 18. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire voir ensemble, et puis après, je vais faire quelque chose comme ça. Alors, attendez, je vérifie si j'ai le bon bouton. Attendez. Voyons si ça cache. Alors, Laurence, je te demanderai de cacher, alors, hein, si tu n'arrives pas à cacher, tu y arriveras. Donc, voilà. Pas tout de suite. Je te demanderai de cacher juste après. C'est bon, mais ça marche. Le but d'une prédication n'est pas seulement de toucher vos émotions, mais aussi de toucher vos mémoires, de pouvoir vous aider à vous rappeler. Et la première chose que j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est ces cinq points. Vous voyez les images? La première image, avec une sorte de, un papa qui est à genoux, ou un homme avec un petit enfant, c'est Jésus quand il expliquait que le plus grand dans ce monde, c'est celui qui est humble et qui accueille les petits. C'est pas celui qui impressionne les autres. Vous pourriez répéter après moi la première histoire, le titre c'est « Qui est le plus grand ?» Qui est le plus grand ? D'accord ? Vous vous rappelez qu'après on va vous demander, donc vous essayez de vous rappeler des images pour aider votre mémoire. Deuxième, il y a une petite main qui sort de l'eau comme ça. C'est parce que si on cause la chute de personnes qui sont petites, il vaudrait mieux pour nous qu'on ait eu une meule, c'est-à-dire une grosse pierre attachée autour du cou et qu'on ait été jeté dans la mer, plutôt que de ça, que ça. Parce que Dieu prend soin des petits. Donc la deuxième enseignement, c'était cause de chute. Vous pouvez répéter après moi ? Cause de chute. Vous vous rappelez, c'est en bas. Donc, les petits, et si on les fait tomber, cause de chute. Troisième, qui est lié encore à cette histoire des petits, c'est s'il y a des petits qui se perdent, on va faire ce qu'on peut pour aller les rechercher. Ça sera la parabole de la brebis perdue. Même s'il y en a 99 qui ne sont pas perdues, le berger va aller voir celle qui est perdue pour essayer de la ramener. Répétez après moi, parabole de la brebis perdue. Alors, fermez les yeux. Est-ce que vous vous rappelez, en haut à droite, l'image? Vous voyez ce papa avec le fils?
Oui.
C'est quoi le titre?
Qui est le plus grand?
En bas à droite, après, c'est quoi l'image?
La parabole.
Et qu'est-ce que c'est le titre?
La parabole.
Voilà, juste à côté de la main, il y a une petite brebis pour nous rappeler que la troisième histoire, c'est?
La parabole de la brebis.
Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. La cinquième histoire, c'était... S'il y a le péché dans notre communauté, quelqu'un qui pêche. Si ton frère a péché, alors contre toi ou bien si ton frère a péché tout court. Hein, dans le texte, même en grec, il y a les deux options. Donc ça, c'est le danger, c'est que quand il a péché, le frère, on peut avoir tendance à se séparer. On peut avoir tendance à s'éloigner. Et dans la communauté chrétienne, en tout cas, on est encouragé à dire quand il y a des choses qui ne sont pas justes, avec l'espoir qu'il y aura une possible réconciliation. Dans le monde, il y a des situations Si c'est votre chef dans votre boulot qui fait quelque chose de pas juste, en général, vous pouvez essayer de dire, puis à des moments, vous êtes coincé. Mais dans la communauté chrétienne, vous êtes invité à dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Si la personne ne le reconnaît pas, on va venir avec une autre personne, etc., pour réconciliation. Le but, c'est la réconciliation, l'unité entre nous. Donc, la quatrième histoire avec les deux personnes qui se tournent le dos, c'est quoi le titre ? Si ton frère pêche. Répétez après moi. Voilà, c'est ton frère ou ta sœur. Hein. Alors, la dernière image, vous voyez ce gars avec les barreaux derrière, qui est pris derrière les barreaux. C'est celui qui est enfermé. Vous pouvez vous rappeler que finalement, si vous ne pardonnez pas, vous êtes cette personne. Parce que l'histoire raconte comment celui qui ne pardonne pas sera celui qui sera enfermé à la fin. Pas une question du grandeur de péché. On peut avoir fait un grand péché, Dieu pardonne. On peut avoir fait un petit péché, Dieu pardonne. Mais on a à nous-mêmes étendre le pardon aux autres. Donc, le titre, c'est « Parabole du serviteur sans pitié ». Vous pouvez répéter ?
Parabole du serviteur sans péché.
Sans pitié. Laurence ? Bien sûr, je vous fais confiance totale. Et en même temps, je veux vous aider au cas où vous avez les yeux qui s'ouvrent à ne pas vous soucier. Alors, je vais demander des questions d'un côté ou de l'autre. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce que c'est la première histoire ? Qui est plus grand ? Alors Laurence, tu vas être avec ce côté-là pour comme ils sont un peu plus nombreux. Donc qui est plus grand. De ce côté-là, quelle est la dernière histoire ? Ensemble ? Parabole ? Ok. De ce côté-là, c'est quoi la troisième histoire ? Ensemble ? Ok. Qu'est-ce que c'est la quatrième histoire de ce côté-là ? Son frère péché. De ce côté-là, qu'est-ce que c'est la deuxième histoire ? Ok. On est bon ? Laurence ? C'est pas intéressant, en 5 minutes, on se rappelle des points clés de tout un chapitre biblique. Donc, si en 5 minutes, on y arrive, il faut combien de minutes pour se rappeler des points clés de tout un évangile ?
Ah non, mais après, c'est...
Alors, un petit peu plus de temps. Un petit peu plus. Alors... Dans la première histoire, qui est le plus grand, c'était l'enseignement sur l'importance de l'humilité. Importance de ne pas se croire supérieur aux autres. Le deuxième, sur les causes de chute, c'était le danger quand on fait trébucher quelqu'un d'autre. Les conséquences de cela. La troisième, la brebis perdue, c'était l'invitation à prendre soin des petits. La quatrième histoire nous encourageait à pouvoir vraiment reprendre celui ou celle qui pêche. Dans les communautés chrétiennes, c'est une des choses qui sont les plus difficiles et les plus importantes. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas juste, avec amour et douceur, je n'ai pas dit de venir avec une Bible pour leur taper sur la tête, mais avec douceur, de reprendre parce que finalement, le péché nous détruit. Et on veut être délivré de cela. La dernière histoire, parabole du serviteur sans pitié, c'est l'importance cruciale du pardon. Alors Frédéric, on en a parlé pendant 3 semaines. On n'a fait que ça pendant 3 semaines. C'est un des thèmes les plus importants de la foi chrétienne. Maintenant, nous allons nous tourner vers le chapitre 19 et voir comment, dans le chapitre 19, il y a une mise en application de ces thèmes. Le chapitre 19 a pour titre « Le prix pour être disciple ». Être disciple de Jésus-Christ, cela a un prix. Être disciple de Jésus... C'est pas une option parmi toutes les options de dire aujourd'hui je suis disciple, puis demain je vais faire mon truc. Je vais aller voir telle personne, je vais faire telle autre. C'est pas grave. Être disciple, c'est quelque chose qui implique toute notre vie, qui implique notre cœur, qui nous implique dans tout notre être. C'est vraiment aller à l'essentiel dans notre vie. Vraiment choisir l'essentiel et le mettre en premier, comme nous le verrons. La première histoire, je suis désolé, j'ai mis enseignement sur le divorce, je devrais dire c'est enseignement sur le mariage. Et comment veiller à finalement garder les mariages forts. J'aimerais vous lire les versets 1 à 6 qui sont le début de cette histoire. Lorsque Jésus eut achevé ses discours sur la communauté, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez les pharisiens qui arrivent, qui sont très pieux, et qui, devant les hommes, disent « Nous, on va essayer de suivre la volonté de Dieu dans tous les détails. » Et ils essayent d'attraper Jésus. Ils lui disent « Est-ce qu'on peut répudier, renvoyer sa femme pour n'importe quelle occasion ?» Je vous donne l'arrière-plan derrière ça, au niveau historique. Dans le judaïsme de l'époque, vous aviez en gros deux positions. La première position, elle était représentée par un rabbin qui s'appelait le rabbin Shammai. Rabbin Shammai, il disait, en accord avec, il se chamaillait avec personne, en hébreu c'est plus celui qui écoute Dieu, et comme son nom ne l'indique pas. Et en Deutéronome chapitre 24, au verset 1, il était dit, tu peux répudier ta femme en cas d'indécence. La question c'est, qu'est-ce que voulait dire indécence ? Arvat, en hébreu, arva, nudité, indécence. Donc certains rabbins disaient, ah, ça veut dire impudicité, ça veut dire en fait tout ce qui est lié à ce que Jésus va dire ensuite par rapport au péché d'infidélité, aux questions de, par exemple, adultère, ça pourrait être inceste, ça pourrait être homosexualité, tous les péchés au niveau de la sexualité, au niveau de l'unité du couple. Tout ce qui pourrait, ça peut être aussi exposition indécente. Hein. Et il y avait la deuxième école. La deuxième école, c'était l'école de Hillel. Dans cette école, on disait, si ta femme a brûlé un repas, tu peux la répudier. Il y avait encore mieux. Il y avait le Rabbi Akiba, il disait, si ta femme ne te plaît plus, si finalement au niveau des émotions, elle ne provoque plus d'émotions quand tu la regardes, tu peux la répudier. Et là-dessus, Jésus lui répondra, revenons au commencement. On va voir que finalement les pharisiens, je lirai les versets après, vont s'attacher au niveau de la lettre, au niveau de ce qu'a dit Moïse, de l'interprétation. Mais d'abord, ils ont demandé la question à Jésus. Jésus, il s'est rattaché à quoi, lui ? Au but de Dieu, au but du mariage. Des fois, on devient tellement prisonnier d'un verset qu'on va en faire une idole. Dans la Bible, on va dire « tel verset me promet cela ». Tel verset m'autorise à divorcer, donc j'ai le droit de divorcer. Et on perd l'esprit de la lettre. Et quand vous perdez l'esprit de la lettre, vous êtes en danger spirituellement, parce que vous commencez à vouloir obtenir des choses pour vous. Et on va voir que ça va être l'histoire de tout ce chapitre, qui va finir avec l'histoire du jeune homme riche, qui aussi prend la lettre et prend tous les détails de la lettre, mais l'esprit, il a du mal avec l'esprit de la parole de Dieu. Et là, Jésus dit, l'esprit, c'est que les deux sont unis pour la vie. Ils sont unis pour construire un couple stable, un couple sur lequel une famille va pouvoir s'établir, sur lequel on va pouvoir avoir une communauté qui va se construire. Et c'est un élément très important. Ils sont unis, ils sont une seule chair. Ça peut être soit à travers l'union physique, l'union émotionnelle, soit l'union à travers les enfants, qui uniront aussi le couple, qui seront un lien d'unité entre les parents. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté que Dieu veut pour l'Église, qu'il veut pour l'humanité entière. On va voir comment les pharisiens répondent donc, et je vais vous lire les versets 7 jusqu'à 12. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Vous voyez au verset 7, les pharisiens, ils disent « La Bible est avec moi ». Deutéronome, chapitre 24. « Lorsqu'un homme aura épousé une femme qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, d'indécent, ce que je vous disais, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. » C'est bon, ils font ce qu'il dit. Ce qu'ils ne disent pas, c'est l'esprit qui est derrière. Quand Moïse a donné ce droit, pourquoi ? Parce que des hommes, des fois, ne donnaient plus à manger à leur épouse. Ou essayaient de la faire sortir, mais sans divorce, la femme, elle ne pouvait pas, elle, retourner chez son père. Elle ne pouvait pas se remarier. Elle était coincée. Elle était prisonnière du manque d'amour du mari. Et donc, la lettre de divorce, c'était pour dire, de fait, cette femme n'est pas mariée avec moi. De fait, cette femme est libre de pouvoir se marier. Et c'était quelque chose de très important au niveau de la société. Mais ce n'était pas lié au pouvoir de l'homme de dire « je fais ce que je veux ». C'était juste pour protéger la femme dans cette situation-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne les paroles de la parole de Dieu pour en faire des choses qui nous plaisent. Ah, il y a telle parole qui promet telle bénédiction ? Je la prends. Je laisse tout ce qu'il y a autour. Je laisse finalement ce qu'il y a, le contexte. Et en faisant ça, finalement, on se retrouve avec des bouts de n'importe quoi et au bout d'un certain temps, on se dit « ça ne marche pas ». On va se dire « la parole de Dieu, elle n'est pas fiable ». Pourquoi ? Ben parce qu'on n'a pas, finalement, reçu l'esprit derrière. Et c'est ce qui se passe ici. Les pharisiens ne veulent pas l'esprit, ils veulent juste la lettre. Et tout chrétien est tenté de cela. On veut des versets. Il y a des versets qu'on aime bien, il y a des versets qu'on n'aime pas. Mais c'est dans les versets que vous n'aimez pas que Dieu veut vous parler. Parce que Dieu est unique, il est un. Et il veut vous enseigner de manière unifié et pas seulement des morceaux. Les disciples, quand ils entendent que si on répudie sa femme sauf pour infidélité, donc là Jésus dit l'interprétation la plus logique de Deutéronome 24, c'est l'infidélité. Donc s'il n'y a pas infidélité, Dieu ne veut pas que vous divorciez. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un a divorcé, il est condamné à l'enfer ?
Non.
Est-ce que si quelqu'un a divorcé, il ne pourra pas être réconcilié avec la communauté dans le futur ? Non, il y a un chemin qui sera ouvert. Mais, ça sera un chemin de repentance, de reconnaissance qu'il y a eu quelque chose de pas juste, de réconciliation dans l'espoir, ou au moins d'apaisement, et sans qu'il y ait ce processus, finalement, la personne a été blessée, et on est blessé en nous-mêmes. Quand, finalement, il y a un divorce, on peut dire ce qu'on veut. Il y a ce qu'on appelle le divorce à l'amiable. Alors, dans la loi française, comment ça marche ? Dans la loi française, on essaye de faire des divorces où les deux sont d'accord. Ça, c'est l'espoir des juges. Et donc, quand il y a une des deux personnes qui divorce, on va essayer de pousser l'autre à dire « Tu veux pas divorcer quand même ? Allez, on divorce. » Et puis, on va trouver un accord, même si on n'est pas d'accord. Parce que s'il y a un des deux qui divorce, vous savez ce qui se passe en loi française ? C'est très difficile de faire le divorce. Il va falloir trouver une faute. S'il n'y a pas de faute, on ne peut pas divorcer. C'est pas suffisant qu'une personne soit dise je veux divorcer. Il va falloir qu'il y ait une faute. Alors, le problème est là. Mais je dirais c'est un des restes de la volonté de Dieu dans la loi française de dire non, le divorce n'est pas bon. Le divorce n'est pas bon. Et alors, je vous passerai les détails, les techniques de 2 mois de séparation qui permettent de donner le droit, les techniques de trouver des fautes, les avocats qui trouvent des fautes qui sont pas des fautes. Vous avez la totale, hein. On va rester là, mais pour vous dire, on se marie à deux. Divorcer, c'est pas suffisant qu'il y en ait un qui dise « je veux divorcer ». Et c'est quelque chose de complexe. C'est pour ça que quand on se marie, il y a un enjeu important. Alors les disciples, eux, n'étaient pas habitués forcément à cet enseignement. Est-ce que les disciples étaient mariés ? Probablement que tous les disciples étaient mariés. Il y en a une certitude pour un. C'est qui ? Dont on est sûr qu'il était marié. Celui qui a une belle-mère. Pierre, on est sûr. Alors, Pierre, Jacques et Jean, c'est sûr qu'ils ont une maman, parce qu'elle va prendre soin d'eux, elle va essayer de leur assurer une place dans le royaume à venir. Mais Pierre, on est sûr qu'il avait une belle-mère, donc il avait une épouse. Et il est même dit dans une épître de Paul que Pierre emmenait son épouse avec lui dans le ministère. Pierre, le premier des disciples, si on peut dire, est quelqu'un qui emmenait sa femme. Donc, n'allez pas imaginer que tous les disciples étaient célibataires et qu'ils disaient « Ah, c'est génial ». Non. Dans cet enseignement, Jésus est en train de dire quelque chose qui est différent de ce qui était enseigné à l'époque. À l'époque, il était dit « Si tu n'es pas marié, tu es maudit. Si ton couple n'a pas d'enfant, vous êtes maudit. Et pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut vous marier. » Maudit, cursed. Et finalement, ce qui était en jeu, c'est que la société définit des règles. Elle dit, si vous n'êtes pas dans le cadre, pas bon. Mais Jésus, il dit, non, je suis pas, c'est pas d'accord. Ça, Dieu n'a jamais mentionné ça. Autant le mariage est une bénédiction, autant le célibat est une option très possible et positive. Quand on est jeune, on investit un temps très grand à chercher l'âme sœur, un mari, une épouse. C'est une réalité. Investissement émotionnel de temps, d'argent, de relations, c'est un investissement qui prend une grande partie des énergies de tous les jeunes en général. Et je dirais, c'est à vous de discerner et de cheminer en sachant que il y a certains dans ce monde qui seront invités au célibat. Et ça, c'est une option possible. Maintenant, le problème, c'est que nous, les êtres humains, on aime bien définir des normes. Alors, il y en a, ils vont dire, non, avec les Juifs, on dit, si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas capable de grandir en Dieu vraiment pleinement. Vous ne serez jamais des chrétiens à 100%. Ça, c'est plus ou moins la position juive et de certaines églises protestantes. En disant, si tu n'es pas marié, on va prier pour toi pour que tu te maries. En oubliant ce verset-là. Il y a des techniques comme ça des fois. Après, on a l'autre côté. L'autre côté, les eunuques pour le royaume, c'est ceux qui sont vraiment purs pour Dieu. Si vous êtes marié, vous péchez. La sexualité, c'est pas bon. Est-ce que Jésus a dit que la sexualité était mauvaise? Il a dit que c'était de Dieu et que c'était le plan de Dieu. Est-ce que le plan de Dieu, c'est du péché?
Non.
Ben non. C'est pas possible. Sinon, il y a un problème. Donc, il n'y a rien à voir entre péché originel et sexualité. La question après, c'est est-ce que cette sexualité est à l'honneur, est respectueuse et digne? Mais, de l'autre côté, on peut être tenté de dire, ah oui, cette parole, et puis il y a Paul qui n'était pas marié, on oublie que Pierre était marié, que les autres apôtres étaient mariés, puis on dit, Pierre et Paul. Pierre, à qui Jésus a parlé, en oubliant qu'il était marié, qu'il est resté marié, qu'il a fait son ministère toute sa vie en étant marié, et Paul qui dit, moi je suis célibataire et ça peut être une bonne option. Et on va dire, le célibat, si vous voulez grandir en Christ, c'est la solution. Alors vous savez probablement que dans l'Église catholique, c'est plutôt dans cette direction. Mais Dieu, il n'est pas d'un côté ou de l'autre. Dieu, il veut notre cœur. Et on peut grandir en Dieu et servir Dieu parfaitement en étant célibataire ou en étant marié. Par contre, si on est marié, le chemin, c'est d'apprendre à aimer son épouse. Et la question, ou son époux, la question qui est en jeu, c'est comment on va faire pour ne pas divorcer? Comment on va faire pour rester unis? Vous vous rappelez des enseignements du chapitre 18? C'était quoi le premier enseignement? C'était quoi la première image? Qui est le plus grand? Qu'est-ce que Jésus répondait? Voilà. Dans les mariages, des fois, il y en a un qui dit « c'est moi qui ai raison ». Qu'est-ce que conseille Jésus? De s'abaisser et d'encourager et de ne pas finalement dire « j'ai raison, t'as tort ». Deuxième point. Cause de chute. Qu'est-ce qu'il dit? Fais attention, que même dans les mariages, il n'y ait pas des causes de chute. Que vous ne fassiez pas chuter l'autre. Troisième enseignement. Si un époux ou une épouse se détourne, et l'espoir dont je parle, c'est un mariage chrétien, si un se détourne de Dieu, priez pour la personne, l'encourager au retour, à la réconciliation. Quatrième point, c'est quoi? Si ton frère a péché, tu lui dis, t'as péché, va en enfer? On dit fait quoi? Reprends la personne. Dis-lui, c'est pas juste. Ce que tu me fais, si tu m'agresses ou quoi, ce n'est pas juste devant Dieu. Et vous cherchez une réconciliation. Le cinquième point, c'était quoi déjà? Et l'enseignement, c'était quoi?
Pardonner.
Et dans un couple, dans tout couple, le pardon est un des fondements les plus importants. Nous avons à nous pardonner. Que ce soit tout couple humain, il y aura des moments où on est... Même si on s'est mal compris, il y aura un moment de pardon. Ces cinq enseignements sont valables pour les couples. Et s'ils ne sont pas mis en pratique, le divorce arrivera parfois. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on apprenne à vivre en communauté. Et le couple, que ce soit Pierre et Juliette, Sandra et moi-même, Dominique, Anise, chacun des couples, c'est le but, cette unité qui représente, qui reflète l'amour de Dieu. Et Dieu va refléter cela. Et j'oubliais aussi le couple de Frédéric et Anton, qui aussi est un couple que Dieu veut utiliser pour bénir à travers votre unité. Et on voit donc là que Jésus, il dit, je ne rentre pas dans votre jeu de... C'est à cause de la dureté de votre cœur, vous voyez ? C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est pas parce que c'est bien. C'est à cause de la dureté de cœur. Et dans tout divorce, il y a une question de dureté de cœur. Ça, c'est le premier enseignement pratique. Mise en pratique des enseignements du chapitre 18. Qu'est-ce qui se passe dans les couples, dans les mariages? Deuxième mise en pratique, par rapport aux petits, cette histoire-là. J'aimerais vous la lire. C'est laisser les petits-enfants venir à moi. Versets 13 à 15. Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Les disciples voient des petits-enfants qui arrivent vers Jésus. Ils ont le maître, quelqu'un respecté socialement quand même. Hein. Il y a des gens qui venaient, même des officiels. Il y avait des responsables de synagogue qui sont venus à Jésus. Il y a eu des responsables royaux qui sont venus à Jésus. Des petits-enfants qui viennent embêter le maître. Qu'est-ce qu'on fait? Allez jouer. Laissez-le tranquille. Et Jésus les choque probablement en disant « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. » Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est quoi les petits-enfants? Alors, innocents, peut-être, mais qu'est-ce que c'est qui définit un petit-enfant? Dans sa vie, le petit-enfant, comment il fait pour choisir ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut dire aujourd'hui, je vais aller regarder le cinéma, demain, je vais me faire à manger ça? Il dépend de qui? À combien de pourcents? 5%? 10%? 100%. S'il commence à dire, je vais manger ce que j'ai envie, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Sauf si les parents sont suffisamment bêtes, malheureusement, pour en faire un petit roi, ben, il ne mangera pas beaucoup. Moi, mon papa, quand il était petit, il avait grandi en Tunisie, et ses parents, s'ils ne voulaient pas manger un repas, vous savez ce qui se passait? Il revenait le repas le lendemain matin. Petit déjeuner, tiens mon fils, voilà le repas. Jusqu'à ce qu'il ait mangé, et après on continuait. Alors si c'était mauvais, s'il y avait quelque chose de pourri ou quoi, c'est une autre affaire. Mais quand on est enfant, on est soumis à nos parents. Nos parents humains sont imparfaits. Notre Père céleste est parfait. Ce que Jésus nous dit ici, c'est soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu qui est un Père parfait. Si en tant qu'enfant on s'est soumis à des parents et qu'on a réussi à grandir, chacun d'entre vous, c'est en vous soumettant à des parents que vous avez réussi à grandir. Et vos parents étaient imparfaits. Combien plus parfait est le Père Céleste? Combien plus en nous soumettant à Dieu, on va pouvoir grandir dans l'amour et la vérité? Même si nos parents humains nous abandonnent, nous maltraitent, ne sont pas des parents à l'honneur de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est le Dieu des orphelins. Dieu est le Dieu de ceux qui ont eu des parents imparfaits. Plus ou moins imparfaits. Et chacun de nos parents ont eu des bons éléments et des mauvais. Les bons éléments, c'est facile, ils nous ont donné à manger. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas ici. Mauvais éléments, des fois, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais notre croissance en tant que chrétien, c'est d'apprendre à faire la part, à pardonner à nos parents, et à reproduire le bon et à laisser le mauvais. Si on dit tout ce que nos parents nous ont donné est mauvais, je ne ferai jamais ce que mes parents ont fait. forcément qu'on va se casser la figure, parce que si vous voulez ne jamais faire ce que vos parents ont fait, première chose, ne donnez plus à manger à vos enfants. Deuxième chose, donnez plus de toit à vos enfants, parce que je crois que chacun d'entre vous, vous avez eu à manger et un toit. Donc, ne vivez pas dans l'opposition complète. De l'autre côté, dites pas, je ferai tout comme papa, maman, maman et papa et maman, c'est Dieu sur terre. Ça, on appelle ça l'idolâtrie. Hein. Donc, il y a une distinction et de dire, passer des parents à Dieu. Ce passage se fait par la reconnaissance que Dieu est plus parfait encore que nos parents, même si nos parents sont aimants, pardonner nos parents là où ils ont fait des choses qui n'étaient pas justes, et être reconnaissant pour toutes les bonnes choses qu'ils nous ont données. Mais ça, c'est possible que si on a une relation avec Dieu le Père. Et Jésus invita ses disciples à être comme des enfants, à être vraiment petits. Et maintenant, il arrive au cœur du chapitre. Maintenant, on arrive au point qui, sous certains aspects, sera vraiment le cœur de l'enseignement de ce chapitre. On a vu l'histoire par rapport au mariage. Qu'est-ce que Jésus disait par rapport au conflit dans un mariage ? Qu'est-ce que Jésus dit par rapport aux enfants, qui sont aussi le fruit d'un mariage, et comment on est appelé à leur ressembler, et non pas à les chasser avec mépris ou à considérer qu'ils ne sont pas importants. Et dernier point, cette histoire et d'autres histoires de ce type-là que Jésus a données sont au fondement du respect des enfants. Aujourd'hui, dans notre société moderne, on a beaucoup de respect pour les enfants. C'est venu de sociétés judéo-chrétiennes marquées par cet enseignement de Jésus. De faire attention aux enfants. Observez bien les sociétés non chrétiennes, les enfants n'auront pas cette place. Les sociétés hindoues, les sociétés chinoises, les enfants doivent se soumettre aux parents complètement, de manière absolue. Quoi que disent les parents. Et vous retrouvez ça, finalement, les parents vont enseigner les enfants, mais les enfants, par exemple, dans la société chinoise, ils sont soumis à la loi des parents. Ils doivent faire ce que les parents disent. C'est en train de changer. Avec la culture, c'est en train de changer. Mais ça a été vraiment une autorité. J'avais rencontré des gens chinois aux États-Unis qui ne pouvaient pas se marier si les parents n'étaient pas d'accord. Ils ne pouvaient pas se marier. C'était impensable parce que la communauté était très forte. Et quand la communauté est forte, le danger, c'est que on commence à avoir des gens qui sont les autorités absolues de la communauté, qui vont être les parents des fois. Dans la foi chrétienne, qui est l'autorité absolue de notre communauté ?
Jésus.
Le pasteur ?
Jésus.
Jésus-Christ. C'est lui. Et la parole est ce qu'il nous enseigne. C'est ça l'autorité suprême de nos communautés. Maintenant, on va voir l'exemple de quelqu'un pieux. Quelqu'un vraiment pieux. Quelqu'un qui cherche à suivre Dieu, mais qui se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Il se rend compte qu'il a fait des trucs, mais... il n'a pas la joie des bénédictions qu'il attendait. Il n'a pas cette joie qu'il attendait de la foi chrétienne. Et il va venir voir Jésus, parce qu'il a entendu que c'était un maître qui faisait des miracles, qui transformait des vies, donc il s'est dit, peut-être que Jésus va transformer ma vie. Et il vient voir Jésus. J'aimerais vous lire les versets 16 à 22. Vous voyez l'image de ce jeune homme triste, avec les mains liées, attachées, et puis il a les pieds sur quoi ? Vous voyez ce que c'est le dessin ? De l'argent. Un paquet de billets, un paquet de pièces. Parce qu'on va voir que c'est un jeune homme qui finalement a beaucoup d'argent mais qui est triste. Et on va voir d'où vient cette tristesse. Versets 16 à 22. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Observez bien et soyez attentifs. Dans la parole de Dieu, Un des points clés, c'est d'apprendre à lire, d'apprendre à écouter. Observez bien la question de la personne. Maître, il lui dit. Quand on dit maître, on dit je te reconnais ton autorité. On va voir s'il reconnaît l'autorité de Jésus. Ça va être toute l'histoire de savoir s'il la reconnaît. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alors, la plupart du temps, c'est bon maître. Ici, c'est que dois-je faire de bon? Hein? Dans les autres histoires, dans les autres évangiles, c'est bon maître. Que dois-je faire? Ici, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour recevoir, pour hériter? Dans d'autres. Hériter, ça se passe maintenant d'hériter?
Oui. Non.
Est-ce qu'on hérite de nos parents pendant qu'ils sont vivants?
Non,
après leur mort. Donc, hériter, ça se passe pas tout de suite, ça se passera dans un certain temps. Et dans l'image du jeune homme, c'est à sa mort, est-ce qu'il héritera de la vie éternelle? Donc, la focalisation du jeune homme, c'est comment m'assurer que je vais avoir la vie éternelle. Alors, Jésus va lui dire, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Mais avant de mentionner ça, il va dire, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Que dois-je faire de bon? Les bonnes actions, les bonnes œuvres. Faire des bonnes œuvres ne nous acquiert pas le paradis. Faire des bonnes œuvres n'acquiert pas la vie éternelle. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des gens qui font un certain nombre de choses. Ce que Dieu veut, c'est des personnes qui apprennent à l'aimer lui et à aimer son prochain. Si on cherche à codifier l'ensemble des choses que l'on doit faire, ça ne sera pas de l'amour après. Hein? Si la loi française définit tout plein de choses, alors on va rajouter des règles parce qu'on se rend compte que dans les mariages ne vont pas bien. Règle numéro 1, les maris doivent amener le lundi, mercredi, vendredi et dimanche le petit déjeuner au lit à leur épouse. Le mardi, jeudi et samedi, ça sera les épouses qui doivent l'amener. Entre 8h et 8h30. Si vous ne faites pas entre 8h et 8h30, votre époux ou épouse peut vous dénoncer, on vous emmène en prison. Ça serait efficace, ça? On essayerait de codifier ce qui concerne l'amour. L'amour ne se codifie pas, c'est un apprentissage de la relation, de l'attention à l'autre, qui s'adapte à toutes les situations. La loi n'a jamais permis l'amour. Elle permet de limiter les dégâts du péché, mais elle ne permet pas d'éviter le péché. Le péché peut exister malheureusement sous des formes très graves dans le cadre de la loi. Vous n'enlèverez pas le péché par la loi. Vous pourrez le limiter, ce qui est une très bonne chose. Ce qui est une très bonne chose. S'il n'est pas limité, vous ne pourrez pas construire de communauté. Une des raisons pour lesquelles je dirais Jésus est venu au moment où il est venu, c'est que l'Empire romain était un empire avec une loi forte qui limitait les dégâts, qui limitait les agressions entre peuples, qui limitait les... Alors, il y avait des péchés, hein, très clair. Ça limitait pas la violence que les parents pouvaient avoir envers leurs enfants. Ça limitait pas un certain nombre de choses. Mais il y avait des bonnes choses, et la loi en soi est une bonne chose. Mais la loi ne sera jamais suffisante pour apprendre à aimer. Et quand on est avec ce jeune homme en train de se dire « Qu'est-ce que je dois faire bon pour avoir la vie éternelle ?» La vie éternelle est une question d'amour. Une question d'amour de Dieu, une question d'amour du prochain. Il n'y a aucune action que vous faites qui vous permettra d'hériter la vie éternelle. C'est la foi, la marche fidèle avec Dieu qui vous donnera l'héritage à la vie éternelle. Si vous croyez qu'il y a une technique pour avoir la vie éternelle, vous êtes de retour avec la loi. Mais la loi n'est pas ce qui vous donne la vie éternelle. Est-ce que vous voulez avoir un livre de loi pour l'éternité, serrer tout votre cœur et danser avec un livre de loi? Ça ne sera pas très joyeux. On a été créé pour être des êtres de relation, en relation avec Dieu, en relation avec notre prochain. Et c'est l'amour. C'est l'amour qui sera la clé. Ce jeune homme, il est en train de chercher une technique. Et Jésus va lui dire, la technique, c'est observer les commandements. Si tu veux une technique, c'est pas de faire des bonnes actions, c'est observer les commandements. Observer les commandements, c'est obéir à Dieu. C'est répondre par amour à un Dieu qui nous aime, qui nous a donné la vie, qui nous a donné de l'air à respirer, de la nourriture à manger, qui nous a donné beaucoup de choses. Et on répond à cela par amour. Parfois, on est un peu dur avec Dieu, on dit « ça suffit pas les bénédictions que tu me donnes, j'en veux un peu plus. Ça, moi, je veux. » Et on va voir. Le jeune homme, Jésus va toucher à ça. Il va toucher au cœur. Mais Jésus lui dit, obéis aux commandements. Garde les commandements. Et la façon dont vous gardez les commandements est un signe de votre amour envers Dieu. Ce n'est pas seulement de faire de manière superficielle. C'est de faire par amour. De manière limitée, quand vous êtes dans la loi française, vous pourrez soit obéir à la lettre, vous ferez, mais vous trouverez tous les détours pour éviter, pour arriver à mettre votre argent à tel endroit pour éviter les impôts. Vous allez essayer de bidouiller, de manipuler la loi pour qu'elle vous serve. Mais là, vous ne respectez pas l'esprit de la loi. Vous essayez d'en tirer profit. Comme les pharisiens, qu'est-ce qu'ils avaient fait, vous savez, avec l'histoire de Moïse, là ? Ils essayaient de tirer profit de l'autorisation de divorcer pour justifier leur motivation impure. Nous pouvons essayer de tirer profit de la loi pour justifier nos motivations impures. Jésus dit, non, tu vas essayer, tu vas garder les commandements. Le jeune homme lui dit, lesquels ? Pour vérifier, Jésus ne va pas aller dans les détails. Il va lui dire, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, pas de mensonges, tu ne mentiras pas, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le début, ça a l'air facile. Tu ne tueras pas qui parmi vous a tué ? Je crois pas, hein. Si vous avez tué, ne le clamez pas sur les toits, allez voir, vous aurez des choses à mettre en ordre. J'espère que vous n'avez pas commis d'adultère. Qui a volé récemment ? Hein ? On est suffisamment riche, et j'aimerais dire que chacun de nous est riche parce qu'on a suffisamment pour manger chaque jour. Le problème, c'est que la richesse, vous allez voir, ça dépend des cultures. Être riche, quand vous êtes au Rwanda, c'est arriver à manger 2 repas par jour. Quand on est riche ici, c'est avoir un travail, une maison,
deux voitures.
Nous, on définit la richesse comme nous, on a envie. Et vous allez voir que ce texte s'adresse à chacun de nous. Nous, on dit, si j'ai pas ça, je ne suis pas béni. Si je n'ai pas ça, alors ça va pas. Jésus, il promet 2 choses. Il promet que si vous êtes fidèle à lui, vous aurez à manger et à vous vêtir. Est-ce qu'il promet que vous allez avoir une jolie maison ? Un joli travail ? Non. Parce que ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas de construire le ciel sur la terre. C'est de vous préparer au ciel. C'est des bonnes choses. Je les souhaite à chacun, ces choses-là. Mais si notre fidélité à Dieu est liée à ces choses-là, vous allez être avec le jeune homme riche quand Jésus lui pose la question. Donc, faux témoignage, là, ça commencera à être un peu plus corsé. Ensuite, honore ton père et ta mère. Est-ce que vous honorez vos parents ? Est-ce qu'il y a des fois où vous avez envie de dire à vos parents, fichez-moi la paix ? Est-ce que vous êtes en colère contre vos parents des fois ? Nos parents sont ceux qui nous ont transmis la vie. Un des points clés, c'est de leur pardonner là aux choses où ils n'ont pas fait. Après, si nos parents font des choses qui ne sont pas justes, on revient au chapitre 18. Si ton frère a péché, reprends-le. Alors faites-le avec sagesse et respect, mais dites, papa, maman, c'est pas juste ce que tu fais. Ensuite, j'aimerais vous demander, est-ce que vous aimez votre prochain comme vous-même ? Est-ce que vous aimez votre prochain comme vous-même ? Est-ce que vous voulez pour votre prochain vraiment le bien ? Est-ce que c'est une option pour la vie chrétienne ? C'est le cœur de l'enseignement chrétien. Et c'est là-dessus que Dieu veut qu'on apprenne. Le jeune homme, lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Il a dû passer vite sur celui-là. Hein. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, et là il y a le discernement de Jésus, ah, si tu veux être parfait, il ne lui parle pas de vie éternelle, hein. Il lui dit, si tu peux être parfait, vraiment pleinement avec Dieu, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Donne tout ce que tu as. Là, Jésus voit que ce jeune homme, il y a un des fondements, un des piliers de sa vie qui n'est pas bon. Il voit qu'un des piliers de sa vie, C'est son pouvoir lié à ce qu'il a. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, on va aller un peu plus profond. Tu veux vraiment grandir dans l'amour, dans la vérité, la perfection que Dieu veut pour chacun de ses disciples ? Ok, pour toi, ça va être ce chemin-là. Vends ce que tu as et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Cet appel n'est pas théorique, il est pratique. Dans nos vies, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus important que Dieu ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que d'apprendre à aimer Dieu et son prochain ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous mettez au-dessus ? Ça peut être « Ah ! Quand est-ce que j'aurai cette maison ?» ou « Quand est-ce que j'aurai ce travail ?» ou « Quand est-ce que j'aurai cet époux, cette épouse ?» « Quand est-ce que j'aurai des enfants ?» « Quand est-ce que mes parents arrêteront de ?» « Quand est-ce que l'économie sera ?» Et tant que ça ne va pas, je punis. « Quand est-ce que mon épouse sera ?» Et je retiens mon amour, je retiens... Ça, c'est des dieux. Des dieux qui sont au-dessus de Dieu. Et quand on les met, eh bien, il va se passer quelque chose. Si vous avez un soleil très lointain et qu'il y a la lune qui se met entre le soleil et vous, qu'est-ce qui va se passer ? Une éclipse. Vous ne verrez plus. Quand on met une idole dans notre vie, on ne voit plus. Et après, on dit, oh, tout est ténébreux autour de moi. On peut même dire... La lumière du soleil, elle n'est pas très lumineuse. Il n'y a pas beaucoup de soleil dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de grâce. Il n'y a pas beaucoup de joie et de paix. Il n'y a que des ténèbres. Ok ? Il est où le soleil ? Il a disparu le soleil ? Il est toujours là le soleil. La question c'est, qu'est-ce que vous avez mis entre vous et le soleil pour vous séparer de la grâce de Dieu ? Et c'est ça qui est la question. Et Jésus voit que ce jeune homme, oh, il en a fait des bonnes choses. Mais il s'arrête aux bonnes choses et ses biens sont liés à son identité. Vous savez, quand on a des richesses, on est respecté. On peut même faire des bonnes actions. On donne de l'argent aux pauvres et on est respecté. Dans la communauté, on va faire des dons. Si on s'appelle Bill Gates, on va pouvoir faire des actions, des dons généreux. Bill Gates est peut-être la personne la plus généreuse au monde avec sa fondation, avec sa femme Melinda. Il donne des milliards. Des milliards. Je ne suis pas là pour juger Bill Gates, mais je suis là pour vous dire, faites attention à ce que votre richesse ne soit pas liée à votre identité.
Mais qu'il est plus généreux Bill Gates ou le veuf qui est donné les dîmes de...
Tu as la réponse, Colin. Tu as déjà la réponse à ta question. La veuve, dans l'histoire, quand Jésus est au temple, Jésus dira, elle a donné plus que tous. Les autres, ils ont donné de leur superflu. Elle a donné de son nécessaire. Alors, ne venez pas me voir à la fin de l'église en me disant « Je te donne les clés de ma voiture. » Je vous rassurerai tout de suite, je vous dirai une réponse toute simple. Je ne suis pas Dieu. Hein? Mais dans la relation avec Dieu, il y a des moments où ça arrive. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais un joli métier. J'étais ingénieur en robotique. J'avais une jolie maison, un joli appartement, je payais à peu près 2000 euros par mois de loyer, petit appartement vraiment avec une baie vitrée, tout charmant. Et quand j'ai commencé à suivre Dieu, j'ai dû lâcher l'appartement, lâcher mon travail. Je suis parti en Suisse, travailler pour gagner des repas. Je donnais des cours d'informatique pour gagner un repas. Et les copains qui étaient au séminaire, ils me disaient, tu me donnes un cours d'info et puis moi je te, au séminaire où on est, on te donne à manger le midi. C'est glorieux ça, hein?
Mais tu as trouvé une plus grande richesse.
Ah, mais j'ai trouvé une plus grande richesse. Oui. Bien sûr. Et je regretterai jamais cette étape-là.
Et puis tu n'aurais pas eu Sandra aussi.
Et j'aurais pas eu Sandra.
C'est la plus grande.
Mais, dans nos vies, il vient des moments où Dieu nous demande, qui est premier? Qu'est-ce qui est premier dans ta vie? Si tu mets autre chose que moi, alors, qu'est-ce qui se passe quand on met la lune entre le soleil et nous? Puis après, on commence à dire, Dieu est lointain, je vois pas le Dieu, je comprends pas, il me parle pas. C'est comme si vous êtes comme ça et vous dites, parle Seigneur, mais je t'entends pas. Bien sûr que vous n'entendez pas. Vous avez mis quelque chose entre vous et Dieu. Et c'est là que, finalement, ça ne marche pas. la technique de la foi ne marche pas. Si vous mettez quelque chose entre vous et Dieu, alors vous direz, bah, Dieu, il est lointain. Et je vous dirai, vous avez raison. Et la personne qui en est la première cause, c'est vous. Laurence, tu peux remuer le... Merci. Et on va passer à la deuxième étape. Là, il y a les disciples qui sont autour. Et les disciples, ils commencent à sentir que ça chauffe pour eux. Ça commence à devenir du sérieux. Et Jésus, juste après, va leur parler. Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Avec les hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. » Avec les hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Jésus, il enseigne de manière surprenante. Les disciples, au verset 25, sont très, très étonnés. Pourquoi ? Parce que, dans l'Ancien Testament, des fois, vous lisiez, « Si tu es fidèle à Dieu, Dieu te bénira avec des champs, ta famille. » Mais Jésus, il passe à la vitesse supérieure dans son enseignement. Il dit, « Finalement, le but, ce n'est pas les champs dans ce monde. » Ça sera les chances au ciel. Et vous verrez dans ce texte, il y a trois expressions qui sont similaires. Hériter le royaume de Dieu, la vie éternelle, ou hériter la vie éternelle, le royaume de Dieu, et être sauvé. Les trois sont utilisés de manière échangeable. Être sauvé, c'est avoir la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est hériter du royaume de Dieu. Les trois sont pareils. Le royaume de Dieu, c'est quand on reconnaît Dieu comme roi et qu'on est son serviteur. Et comme on est en lien avec celui qui a la vie en lui, on a la vie éternelle. Si on est en lien avec celui qui a la vie, on va être délivré de tous les dangers de ce monde, de tous les péchés de ce monde. La première délivrance que Dieu veut pour nous, c'est être délivré du péché, qui va ultimement nous délivrer de la mort. Donc être sauvé, la vie éternelle, le royaume de Dieu. Les trois sont similaires et dans ce texte, on a les trois qui sont mentionnés alternativement. Jésus, lui, va dire, au contraire, non pas qu'un riche est béni, mais que ça va être difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le problème, c'est la richesse peut être... une idole. Oh, on est très fort, hein, pour dire, oh, je loue Dieu, je célèbre Dieu, et on a 12 idoles. À la fin du sermon, je vais vous demander de prier pour non pas savoir seulement quelle est votre idole, mais si vous en avez plusieurs. J'en parle plusieurs fois, parce que la parole de Dieu en parle plusieurs fois de ces questions-là, et que tant que vous avez une idole, elle est là. Et vous pouvez dire, mais c'est dur la vie, c'est difficile. Les idoles, qu'est-ce qu'on fait avec ? On les renverse, on les met aux pieds de Jésus. Et tant qu'elles sont au-dessus de nos vies, il y aura des rayons du soleil qui ne viendront pas. Et s'ils ne viennent pas, ces rayons du soleil, ne soyez pas surpris. C'est logique. Si vous éteignez la lumière et que vous avez du mal à trouver vos clés, eh bien, commencez par allumer la lumière. Il y avait une histoire, il y a quelqu'un qui est en train de chercher, c'est la nuit, il y a un lampadaire. Aujourd'hui, je sais bien, il n'y a plus de lampadaire, mais vous voyez ce que c'était, cette lumière. Si, il y a encore quelques lampadaires à Saint-Denis. Un lampadaire, c'est une lampe qui éclaire. Et il y a quelqu'un qui est comme ça, en dessous du lampadaire. Un autre vient et lui demande, « Qu'est-ce que tu cherches ?»« Ah, je cherche mes clés. » Alors l'autre lui demande, « D'accord, je peux t'aider ?»« Oui, oui. » L'autre, la personne qui essaye d'aider, lui demande, « Où est-ce que tu les as perdues, tes clés ?»« Ah, je les ai perdues là-bas, à 500 mètres. » L'autre se relève et lui dit, « Mais pourquoi tu cherches ici ?»« Ah, ben parce qu'il y a de la lumière. » On cherche là où il y a de la lumière. On ne trouve rien sans la lumière. Et la lumière spirituelle, c'est la lumière de Dieu. Donc, pour que vous puissiez emmener la lumière de Dieu là où vos clés n'étaient pas là, étaient perdues, ben, invitez sa lumière. Invitez sa lumière. Et Jésus va choquer ses disciples. Non seulement il va leur dire que c'est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu, mais il va faire le plus gros qu'il peut. Jésus, il fait, c'est presque des blagues. On ne se rend pas compte comment c'est rigolo. Si on le lit, on dit c'est la parole de Dieu, il faut être sérieux. Jésus va prendre ce qui est le plus gros dans toute sa culture, et ce qui est le plus petit, le plus gros animal que Jésus et sa culture connaissaient, c'était quoi? Les chameaux. Il n'y avait pas d'éléphant chez Jésus, donc les gens, ce qu'ils avaient vu d'animal le plus gros, c'était le chameau. Et qu'est-ce qui était le plus petit dans sa culture? Pour passer? Le chat d'une aiguille. Voilà, c'est le petit trou d'une aiguille pour coudre. Et il dit, c'est plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. À votre avis, le chameau, il va rentrer dedans?
En quel état,
oui. En chair à pâté, en écrabouillé, en saucisse, peut-être qu'il arrivera à rentrer, mais en tant que, en entier, il n'entrera pas. Est-ce que vos richesses, vous allez les emmener à travers le chat de l'aiguille qui est la mort?
Non.
Non. Vous les laisserez là. Est-ce que vous pourrez emmener votre maison? Est-ce que vous pourrez emmener votre travail? Vous pourrez emmener votre chien? Non plus, ça passera dans le chat de l'aiguille? Tous les... Voilà. Ça, tu peux avoir. Tout ce que toi, tu as donné. C'est pas ce que vous avez reçu, c'est ce que vous avez donné qui sera la mesure. Amasser des trésors dans le ciel, c'est par l'amour. Et Jésus, c'est ce qu'il lui a dit au jeune homme. Il lui a dit, donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. C'est à travers ce que vous donnez que vous amassez des trésors dans le ciel. Pas à travers ce que vous recevez. Ce que vous recevez sur cette terre, c'est pour être capable de donner. Ce que vous recevez, c'est pour ici. Ça vous aide à pouvoir donner. Mais les trésors au ciel, ça sera ce que vous aurez donné, vous. L'amour, le temps, la prière, la patience, ça, ce que vous donnez, c'est éternel. Alors les disciples, comment ils réagissent? Ils ont parlé donc de vie éternelle, royaume de Dieu, similaire à être sauvé, et eux, ils se disent... Qui peut donc être sauvé? S'il est riche que nous, on croyait être bénis de Dieu, eux, c'est difficile pour être sauvés, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Et Jésus leur dit, avec les hommes, c'est impossible d'être sauvé. Mais avec Dieu, tout est possible. En relation avec les hommes, vous ne pouvez pas gagner la vie éternelle. C'est dans votre relation avec Dieu que vous la gagnez. En respectant les commandements, en aimant Dieu et aimant notre prochain. Et aimant la création. L'avantage d'aimer Dieu... c'est que votre amour du prochain ne sera pas limité. Si vous aimez Dieu, vous aimez ce qu'il a créé. Est-ce qu'on va aimer les océans si on aime Dieu? Est-ce qu'on va aimer la terre si on aime Dieu? Est-ce qu'on va aimer la nature? On est appelé à tout aimer parce que c'est Dieu qui a créé. Est-ce qu'on va aimer quand les gens y font des péchés? Non. Est-ce que Dieu il a fabriqué ça, lui? Non, à l'origine, c'est pas ce qu'il a fait. Et il l'a permis, mais il n'a jamais voulu. Il ne l'a jamais souhaité. Et donc Jésus dit, cela est impossible aux hommes d'être sauvés, d'être délivrés du mal, du péché et de la mort. Mais à Dieu, tout est possible. Et avec lui, on pourra le vivre et on va le vivre par la foi, si nous marchons par la foi et par la grâce. Alors nous avons maintenant le dernier texte par lequel nous allons finir notre temps aujourd'hui. On a vu la question du divorce ou l'enseignement sur le mariage. Comment on est amené à donner? Le fondement d'un mariage, c'est pas ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on donne. Qu'est-ce que vous donnez? Est-ce que vous donnez de l'attention, de la prière à l'autre? Et c'est ça qui va rendre un mariage fort. Ensuite, on a vu les petits-enfants qui étaient importants parce que Jésus voulait prendre soin des petits et leur dit que c'est en étant obéissant comme un enfant qu'on aura la vie éternelle. Et juste après, par l'histoire du jeune homme riche, maintenant on voit comment ce n'est pas au bien qu'on a sur cette terre que se mesure notre spiritualité. Si quelqu'un vous dit, la personne qui est grande en Christ, c'est celle qui a tel boulot, celle qui a telle maison, telle voiture, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est de la parole de Dieu? Quand Jésus parle de ceux qui ont le royaume de Dieu, est-ce que c'est ceux qui sont des grands? C'est les petits-enfants? Qui doivent demander pour tout, qui sont fragiles, qui sont... Est-ce que Dieu veut nous humilier, à votre avis, nous écraser, nous faire sentir qu'on est méchant? Non! Il va nous donner beaucoup de bonnes choses. Mais nous, notre tâche, c'est d'avancer en tant que petits et nous réjouir des bénédictions que Dieu veut pour nous. Et il y aura des bénédictions. Je ne suis pas là pour vous dire la vie chrétienne, c'est horrible. Il y aura des grâces. Et une des grâces, c'est de pouvoir grandir en tant que communauté. Grandir ensemble. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous vivions. Maintenant, Il y a Pierre qui a entendu tout ça. Il a entendu l'histoire du divorce, c'était pas facile. Il a vu l'histoire des petits-enfants. Il a vu l'histoire du jeune homme riche qui se fait rembarrer, renvoyer parce que, tout triste, en gardant, qui préfère sa richesse à suivre Jésus. Et maintenant, Pierre va venir voir Jésus. Et je vous lis les versets 27 à 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. » Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Jésus mentionne deux choses. Il mentionne que suivre Dieu, c'est renoncer à un ensemble de choses. Suivre Dieu, c'est renoncer à un certain nombre de choses. On en reçoit d'autres. On peut perdre des personnes dans nos familles. On peut perdre des biens, des terres, mais on recevra au centuple. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Des fois, on commence la vie chrétienne, c'est comme un loisir, c'est comme une activité du dimanche. Hein, on a le fitness, on a le, je dirais, on peut avoir regarder des films de temps en temps, aller au cinéma, puis oui, le dimanche, on va à l'église. C'est une partie. Et on dit « je souffre », donc ça veut dire que j'ai soumis tout ça à Jésus. Faites attention. Là, Jésus mentionne des personnes qui quittent tout pour lui. C'est autre chose. Et qui sont prêts à soumettre tout ce qu'ils ont à Jésus. Et en même temps que vous grandissez en Christ, vous êtes invité à prendre conscience qu'il y a des choses que vous pourrez perdre. Mais que Jésus donnera au centuple. En frère, en sœur, en soins qu'il nous donnera. La vie chrétienne n'est pas une vie malheureuse, mais c'est une vie où on est dépendant de Dieu. Un des serviteurs de Dieu qui sont très touchants s'appelait Georges Muller. Il avait commencé un orphelinat. Mais il n'avait aucune subvention, il ne recevait d'argent, il n'avait demandé d'argent à personne. Il demandait tout à Dieu. Et j'aimerais vous dire que quand on fait ce chemin-là, il y a des moments difficiles. Des fois, il n'y avait rien à manger pour les enfants, et puis les enfants commençaient à dire « On n'a plus rien, les réserves sont finies, les responsables commençaient à dire. » Et lui a dit, il avait été fidèle en toute chose, et il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas d'idole, donc la communication avec Dieu était bien et pure. Et une fois, il leur a dit « On va prier. » Et ils ont prié, ils ont dit « Merci Seigneur pour le repas que tu vas nous donner. » Les autres regardaient, ils se disaient, il y a tout un orphelinat, là il est en train de péter les plombs le responsable. Hein. Il y a tout un orphelinat, on n'a rien à manger, on sait qu'il n'y a plus rien dans les réserves. Il a dit, remercions Dieu. Et après, des personnes sont venues apporter à manger. Alors ça, c'est le moment qu'on aime bien. Ça, on aime bien le moment. On se dit, ah, moi je suis comme Georges Muller, merci Seigneur pour la nourriture, le travail, la maison, la voiture, les amis que tu vas me donner. On ouvre les yeux. Et on dit, ah, c'est pas encore arrivé. Il y a une technique qui manque. C'est quoi la technique? Quelles sont vos idoles dans votre vie? Est-ce que vous avez appris à soumettre tous les parties de votre vie à Jésus-Christ, à sa parole, à son autorité? Est-ce que vous l'avez vraiment mis comme le chef? Ou est-ce que c'est comme le jeune homme riche, maître, et puis après il y a tout plein d'autres choses qui viennent se balader dans vos vies? Soit Jésus est maître, et il y aura le centuple. Soit Jésus n'est pas maître, et vous aurez toute l'obscurité que vous pouvez imaginer dans vos vies. C'est tout simple. Et Jésus est très clair là-dessus. Nous, on veut le centuple. Qui veut être comme Georges Muller et prier, puis il y a Dieu qui nourrit 100, 200, 300 enfants. Et ce monsieur Georges Muller a envoyé des centaines de missionnaires ensuite, à travers ses œuvres, qui ont fait des orphelinats dans le monde entier. C'était un homme de Dieu. Mais la première chose qu'il a dit, c'est « Je refuse de recevoir ce qui ne vient pas de Dieu ». La première chose, c'est qu'il a dit « Je refuse de recevoir ce qui ne vient pas de Dieu ». Il y a des gens riches qui sont venus le voir, qui lui disent Oh, ton projet d'orphelinat, c'est génial, viens, j'ai envie de te donner 1 million. Il a dit non, merci. Je vous remercie, je vais prier. Et il a senti que ce n'était pas de Dieu. Il n'a pas pris. Est-ce que c'était un extrémiste? Est-ce que c'était un fondamentaliste? C'était quelqu'un qui voulait vraiment être fidèle à Dieu. Je vous invite dans les petites choses de la vie à progressivement apprendre cette fidélité. Que Jésus soit vraiment premier. Et qu'on voit, comme Georges Müller et comme tous les chrétiens de tous les temps sont invités à expérimenter la fidélité de Dieu. Mais pour l'expérimenter, Dieu va vouloir nous vider de tout ce qui n'est pas de lui. Nous vider de nos mauvais caractères. Nous vider de nos mauvaises habitudes. Nous vider de tout ce qui met un obstacle entre lui et Dieu. Des fois, on dit, oui, je veux bien suivre Jésus, mais là, non. Ce là, non, c'est la petite lune. Elle est petite, hein, la lune. La taille de la lune par rapport à la taille du soleil, Colline, c'est quoi? Combien, quelle est la taille de la lune en comparaison du soleil? Tu connais beaucoup de choses. S'il y a quelqu'un qui sait, c'est quoi? 100 fois plus petit? 1000 fois plus petit? Plus de 1000 fois plus petit. Eh bien, une idole, c'est pareil. C'est 1000 fois plus petit que Dieu, mais ça peut cacher Dieu. Ça peut être une cuillère, ça peut être une belle-mère, ça peut être un ami, ça peut être une voiture, tout ce que vous pouvez imaginer. Hein? Je vous laisse le choix. Et cette petite cuillère peut cacher le soleil. Jésus finira par cette parole. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Jésus rappelle que ce n'est pas ceux qui ont l'air d'être premiers devant Dieu, avec une vie qui semble un succès, qui sont les grands devant Dieu. Dans notre Église, les grands spirituellement, ce n'est pas ceux qui ont le meilleur travail, la plus grande maison. Les plus grands devant Dieu, c'est ceux qui sont les plus fidèles à Dieu. Et ça, c'est Dieu qui va les reconnaître. Est-ce qu'on peut être riche et être fidèle à Dieu? Oui, Joseph d'Arimathée, Zachée, étaient riches et sont restés riches quand ils sont devenus disciples de Jésus-Christ. Mais ils se sont soumis pleinement à Jésus-Christ. Et pour nous aussi. Et Jésus n'a pas fini avec Pierre, parce que Pierre, il aimerait bien être le premier. Et Jésus va finir de répondre à Pierre dans le chapitre suivant, que nous verrons la semaine prochaine, avec l'histoire des ouvriers de la dernière heure. Ça va être la fin de la réponse à Pierre. Et tu ne seras pas là, Cécilia, mais il y aura le sermon sur Internet, si tu veux, tu pourras l'écouter, et tu pourras voir qu'est-ce qu'il va répondre à Pierre, Jésus, pour l'aider à comprendre que ce n'est pas une question de richesse qui est en jeu, ce n'est pas une question de tout avoir laissé, parce que Pierre, il se dit, moi je suis le super disciple, j'ai tout laissé, je fais tout comme il faut, je viens en réunion de prière, tout ça, est-ce que c'est bon pour moi? Et Jésus lui dit, confiance, avance, et tu seras béni. Mais il y a un petit truc, il y a un petit crochet dans la pensée de Pierre, c'est qu'il se croit que finalement il est grand. Et Jésus va lui parler d'une histoire des ouvriers de la dernière heure. Ça sera l'enseignement de la semaine prochaine. J'aimerais qu'on finisse par revoir un petit peu le chapitre 18. D'abord, rappelez-moi. Alors, fermez les yeux ou rappelez-vous. Alors, vous n'avez pas de... Là, ce n'est pas le chapitre 18, donc vous pouvez être tranquille. De ce côté-là, rappelez-moi, c'était quoi la première histoire de... Qui est le plus grand? Ensuite, on arrivait à quoi? Chaque côté doit répondre ce côté-là. Deuxième, c'était? Voilà. La troisième partie du chapitre 18. Quatrième partie? Non, après la brebis perdue. Ah oui, c'est vrai, tu es ce côté. Ouais, le frère qui, si ton frère a péché contre toi. Tout à fait. Cinquième. Serviteur sans pitié. Laurence, tu nous caches l'image? Regardez plus. Alors, rappelez-moi, c'était quoi dans notre chapitre aujourd'hui? C'était quoi la première histoire qu'on a eue? Mariage. Enseignement sur le mariage. Je changerai d'ailleurs sur le graphique enseignement sur le mariage. Deuxième point, c'était quoi? Laisser les petits-enfants venir à moi. Et à travers ça, Jésus montrait que les petits, finalement, c'était eux, les exemples les exemples du royaume, ce n'était pas les grands. Troisième histoire, parabole de l'homme riche, le jeune homme riche. Donc vous pouvez remonter. Très. Chaque semaine, je ferai toujours plus ça pour que vous vous rappeliez des histoires. Et il y a un graphique complet Pour ceux qui veulent, j'en reprendrai quelques-uns dimanche prochain. Maintenant, on va regarder, en bref, ce qu'on a vu. Donc, enseignement sur le divorce, ne pas s'endurcir. Se marier, c'est choisir de donner. Vivre en communauté, c'est choisir de donner avant tout. La communauté n'est pas un lieu où on fait que recevoir. C'est le lieu où on apprend à aimer son prochain. Et aimer, c'est donner. Donner du temps, donner l'oreille. Et notre générosité mutuelle, les uns envers les autres, c'est ce qui va construire notre communauté. Plus nous sommes généreux les uns envers les autres, plus la communauté va grandir. Plus on dit, « Ah, moi je viens à la communauté pour prendre. » Ah, vous recevrez un petit peu, mais vous recevrez des miettes. Vous ne recevrez pas la plénitude de la joie de vivre ensemble. Deuxième histoire, laisser les petits-enfants venir à moi, c'était avancer avec foi et obéissance envers notre Père Céleste, dans tous les domaines de notre vie. Et ce qui était lié directement dans l'histoire du jeune homme riche, qui est notre maître et notre Dieu ? Premier, ne pas s'endurcir. Oui. Do not harden your heart. Do not harden your heart. Voilà, donc ne pas s'endurcir, pardonner, faire un effort envers l'autre et ne pas dire je n'en veux pas, de pas rejeter l'autre. Dans les mariages et pour les communautés en général, ne pas s'endurcir les uns contre les autres. Donc voilà. Donc on est arrivé à la fin du sermon. Je vais faire une prière et je vais vous demander, par rapport à ces enseignements, où est-ce que vous en êtes, vous ? Par rapport à vos relations proches ? Est-ce que vous cassez les relations quand ça ne va pas ? Ou est-ce que vous pardonnez, vous essayez de vous réconcilier, de prier pour l'autre ? Est-ce que vous marchez avec l'obéissance d'un petit enfant envers Dieu ? Et la dernière, la plus importante question, est-ce que vous avez des petites cuillères, des personnes, des voisins, des oncles, des tantes, des choses que vous mettez au-dessus de Dieu et que vous dites, si Dieu ne donne pas ça, cette bénédiction, alors, c'est fini. Vous avez déjà mis la lune, vous êtes déjà prêt pour les ténèbres. Et après, les ténèbres vont se répandre dans vos vies. Et je ne veux pas, je ne veux que de la lumière pour vous, et je ne veux aucune ténèbre pour vous. Je vous souhaite la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute notre vie. Prions et un moment de prière pour que vous, dans votre cœur, vous puissiez évaluer avec le Seigneur votre état spirituel. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à voir, chacun d'entre nous, c'est pas seulement pour les autres, c'est pour moi aussi. Montre-nous, s'il y a une lune qui cache le soleil, la lune est toute petite, comme Colline nous disait, ça peut être plus que 1000 fois plus petit que le soleil, mais pourtant, si elle cache le soleil, elle le cache vraiment. Et si on se concentre sur cela, eh bien la ténèbre sera dans nos vies. Le désespoir va entrer. Montre-nous, Seigneur Jésus-Christ, s'il y a quelque chose qu'on met au-dessus de toi, qu'on met au-dessus de ton Père Céleste. Parce que nous voulons, comme les petits-enfants, marcher dans la confiance, la foi, l'obéissance. Une obéissance faite de dignité, parce que tes enfants, tu ne les écrases pas, tu les élèves. Avec amour, tu les guides. Merci, Père Céleste. Bénis ce temps. Et encourage, je t'encourage, je te demande, Seigneur, de nous encourager pendant cette semaine et de nous aider à discerner s'il y a vraiment des choses qu'on a mises avant toi et que ces choses soient mises au pied de ta croix. Parce qu'alors, nous pouvons espérer que ta lumière va rentrer dans nos vies. Alors, nous pourrons briller de ta lumière, être illuminés de ta grâce. Merci de nous guider pendant cette semaine et pendant cette minute maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu vois dans ton cœur une petite cuillère, une lune qui te détourne du soleil, je t'invite à la remettre maintenant aux pieds du Seigneur Jésus et à dire « Je n'en veux plus. Je ne veux plus de cette idole. Je la dépose à tes pieds, Seigneur. Je veux ta lumière dans ma vie. Je veux ta grâce. La bénédiction de la communion avec toi. La grâce de ton Esprit Saint. La joie d'être sauvé. » Oui, Seigneur Jésus-Christ, avec ceux qui le veulent, je veux faire cette prière. Et je vous invite, ceux qui le veulent, à dire Amen à cette prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons tout ce qui n'est pas de toi, les idoles. Aide-nous à voir dans les prochains jours si on a besoin de voir plus clairement à ce qu'il y a à te déposer. Mais ce que nous voyons déjà, on veut le mettre à tes pieds. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Christ, nous le remettons à tes pieds. Où que ce soit dans nos vies, parce que nous voulons ta lumière. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous renonçons à laisser ces choses guider notre regard, guider notre main, guider notre temps. Nous voulons marcher en femmes et hommes libres, libres d'aimer, libres de servir, libres de briller de ton amour en ce monde. Amen.